À toutes et à tous. Aujourd'hui, je vais revenir sur les propos récents que j'ai tenus par rapport aux émeutes urbaines, qui me paraît être un sujet suffisamment important pour qu'on puisse y accorder une nouvelle émission. Alors, je vais bien préciser ma position et par rapport à la thématique de cette émission, qui est une émission sur l'architecture et sur l'urbanisme. Bon, on peut penser que j'aurai des solutions à proposer dans ce domaine. Bon, en fait, il n'en est rien, même je vais prendre le contre-pied des commentaires et de ce qui a pu être dit ces dernières semaines ou ces derniers jours par rapport à justement ce rapport de la géographie, du territoire, c'est le mot que l'on emploie aujourd'hui, le rapport du construit, du bâti, des logements, des équipements qui, justement, ont été au cœur de ces émeutes parce qu'il y a eu des dégradations très graves et des destructions par des incendies de bâtiments publics. Donc, il faut bien montrer qu'il y a une question qui est celle du construit et celle des populations qui habitent le construit. Alors, je pense qu'on a une confusion, qui est une confusion fondamentale entre contenu et contenant, et je voudrais rappeler que des émeutes urbaines ne sont pas des spécificités françaises. Elles ont eu lieu dans d'autres époques, elles ont eu lieu dans d'autres lieux, et la question qui a pu être posée, notamment aux États-Unis, par ces émeutes très importantes qui ont détruit une grande partie des... ou du moins... si ce n'est de la destruction, ont été sanglantes aux États-Unis il y a maintenant près d'un demi-siècle. Alors, les États-Unis, il ne s'agit pas de prendre les États-Unis comme modèle, simplement, c'est le pragmatisme de leur approche. Alors, comme vous le savez, les États-Unis ne sont pas un pays avec une verticalité comme la nôtre, État fédéral. Il y a donc, par rapport au financement, aux aides, en plus de ce qui peut être, on peut dire, public, il y a une grande partie qui est une grande partie faite par des fondations, par un système de fiscalité. Bon, chaque pays a ses caractéristiques, mais le fait que une partie importante peut être donnée par des fondations, bien les fondations, elles ont l'habitude de suivre l'argent qu'elle donne et de voir si cela donne des résultats. Alors je pense qu'il y a un travers dans l'argent public en France notamment, où on peut faire des chèques, et je pense qu'aujourd'hui le gouvernement ne s'en prive pas. Pour calmer les émeutes, on sort le carnet de chèques, on augmente le déficit public, et on espère que cela calmera sans vraiment se poser la question de l'utilité de cet argent. Et quand on saupoudre d'une manière assez large, il est évident, il est assez difficile de savoir et de suivre les effets de cette manne distribuée d'en haut. Alors, pour venir aux États-Unis, donc les fondations, par exemple la fondation Ford, mais on sait que par exemple depuis Bill Gates, évidemment il n'existait pas au moment des émeutes raciales des années 70, donne de l'argent pour les vaccins, pour l'éducation, et évidemment il y a un suivi très précis de cet argent et de voir l'efficacité qui est donnée. Alors il y a eu un grand débat aux États-Unis à la suite justement de ces événements, qui était People or Place. Alors en anglais, en français, ça veut dire ou les gens ou les lieux. Alors People, c'est les gens, et Place, c'est l'endroit, c'est les lieux, c'est ce qu'on appelle aujourd'hui le territoire. Donc, on le posait comme une alternative, c'était soit on fait des aides sociales et on aide les gens, soit on met l'argent dans des bâtiments. Alors en France, on a fait la politique de la ville, qui est un bougie-bougla où tout est mélangé. Évidemment, on ne va pas savoir quels effets, si ce n'est que le montant total de ces aides, c'est une somme astronomique pour notre pays, puisqu'on a donné, l'État a distribué l'équivalent de 200 milliards d'euros, ce qui est une somme incroyablement importante. Et de ce fait, comme ces aides étaient toutes mélangées, on ne sait pas qu'est-ce que c'est qui a l'urbanisme, de l'aménagement des voies, la rénovation des appartements, de la création de bâtiments publics ou des aides qui ont été des aides sociales, des aides aux personnes, des aides pour le logement. Évidemment, on n'a aucune analyse et avec les résultats, si ce n'est que l'on sait que, en fait, ça n'a pas marché. La preuve avec les dernières émeutes. Donc, les Américains, dans leur pragmatisme, ont fait des opérations où on a rénové ce qu'on appelait le renouveau urbain, le mot était le même en anglais, urban renewal, on a fait des belles opérations avec des rues refaites, des espaces piétons, des arbres plantés, des logements de belle qualité. Enfin, on a fait du dur, du concret. Et par contre, on n'a rien fait sur le plan des aides sociales. Puis il y avait une autre opération témoin dans laquelle on a absolument, dans cette opération, on n'a pas du tout modifié le bâti existant. Et par contre, il y a eu des aides très efficaces qui ont été des aides à l'emploi, des aides à la formation. Alors c'était l'époque de la discrimination positive, où il y a des lois qui ont permis, dans le cadre de la ségrégation sociale et raciale américaine, qui était évidemment bien plus importante que ce que l'on a pu voir dans notre pays, où il y avait vraiment ce n'était pas forcément un apartheid, mais enfin si, c'était une sorte d'apartheid social, et on le voit d'ailleurs si vous regardez les films des années 60, vous ne voyez pas de noirs, si ce n'est qu'ils sont chauffeurs, manutentionnaires, balayeurs, et personne n'apparaît ni dans les médias, ni dans les lieux de pouvoir, politique, entreprises, etc. Alors aujourd'hui, la situation a totalement changé, et non seulement il y a eu un président noir, mais on voit effectivement que ces politiques d'intégration ont été très efficaces, parce que on peut voir effectivement qu'il y a plus de discrimination par rapport à cela. Mais enfin, pour revenir à ces différentes opérations, eh bien, ce qui a été jugé, et c'est justement le résultat dont je vous parle à l'instant, c'est que la rénovation urbaine, en fait, n'avait pas de grands résultats. C'est-à-dire que les résultats, c'était les vols, la criminologie, les personnes qui arrivaient à sortir de leurs conditions ou pas, les niveaux de drogue, etc. Enfin, tous les facteurs que l'on peut aligner. Et là, effectivement, par contre, quand on avait mis l'accent sur les politiques ciblées et efficaces, notamment de discrimination positive, bien, on a eu des résultats. Donc, les lois ont été développées dans ce sens avec les résultats que l'on sait. Alors, en France, comme tout est mélangé, effectivement, on ne voit pas des résultats. Et il semblerait, en entendant notamment la déclaration récente du président de la République, qu'il veut répartir les difficultés. Alors là, d'abord, pardon, c'est une novlangue, les difficultés. En fait, les difficultés, ce serait, bien on aura compris, c'est répartir les personnes qui créent des difficultés. Si j'ose traduire la pensée présidentielle. Donc ça veut dire que il faudrait éclater les soi-disant ghettos, les assignations en résidence, et je vous avais déjà dit ce que je pensais de l'utilisation de ces mots qui ne correspondent absolument pas à la réalité, et ce faisant, on aurait par les bienfaits de la mixité sociale qui fait partie du vivre ensemble, la mixité sociale étant une sorte de potion magique qui fait que si vous mettez des gens malheureux au milieu de gens plus heureux ou de gens pauvres et sans éducation au milieu des gens qui bénéficient de l'éducation, eh bien il y aura un effet positif. On ne se pose pas évidemment la question si ça pouvait agir en sens inverse. Et ça va être le but effectivement de la deuxième partie du propos, de voir justement comment le rapport de la manière dont on a traité la population a pu avoir des effets négatifs et justement n'a pas forcément des effets positifs. Alors nous allons marquer une pause musicale et je vais reprendre ce propos.
J'étais tranquille, j'étais peinard, accoudé au flipper, le type est entré dans le bar, a commandé un jambon beurre, puis il s'est approché de moi, puis il m'a regardé comme ça, t'as des bottes mon pote, elles me bottent. Je parie que c'est les Santiago, viens faire un tour dans le terrain vague, je vais t'apprendre un jeu rigolo, à grands coups de chaîne de vélo, je te fais tes bottes à la baston, moi j'y ai dit, laisse béton. Il m'a filé une beigne, j'ai filé une torgnole, m'a filé une châtaigne, je lui ai filé mes grolles. J'étais tranquille, j'étais peinard, accoudé au comptoir, le type est entré dans le bar, a commandé un café noir, puis il m'a tapé sur l'épaule et m'a regardé d'un air drôle. T'as un blouson mecton, il est pas bidon. Moi je me les gèle sur mon scooter, avec ça je serai un vrai rocker. Viens faire un tour dans la ruelle, je te montrerai mon opinel et je te chouraverai ton blouson. Moi j'ai dit, laisse béton. Il m'a filé une beigne, j'ai filé un marron, m'a filé une châtaigne, j'ai filé mon blouson. J'étais tranquille, j'étais peinard, je réparais ma mobilette. Le type a surgi sur le boulevard, sur sa grosse moto super chouette. S'est arrêté le long du trottoir et m'a regardé d'un air bête. Tu as le même blue jean que James Dean, tu arrêtes ta frime. Je parie que c'est un vrai Lévi-Strauss, il est carrément pas craignos. Viens faire un tour derrière l'église, histoire que je te dévalise. À grands coups de ceinturon, moi j'y ai dit, laisse béton. m'a filé une beigne, j'ai filé une mandale, m'a filé une châtaigne, j'ai filé mon futal. La morale de cette pauvre histoire, c'est quand t'es tranquille et peinard, faut pas trop traîner dans les bars, à moins d'être un gay en costard. Quand à la fin d'une chanson, tu te retrouves à poil sans tes bottes, faut avoir de l'imagination pour trouver une chute rigolote.
Donc, je vous parlais des États-Unis, mais en France, qu'est-ce que l'on a fait? Eh bien, en France, on a fait à peu près le contraire. On a fait la loi SRU, qui a été initiée par un ministre communiste, Guessot, et cette loi SRU, ça veut dire solidarité et renouveau urbain. Alors, vous voyez que l'on mélange dans la loi les mêmes intentions, contradictoire entre people et place, les gens et les lieux, et évidemment c'est fait avec les meilleures intentions du monde, mais les meilleures intentions du monde, la pensée totalitaire elle a aussi les meilleures intentions du monde, et il ne s'agit pas de rêver le monde et surtout de voir les conséquences aujourd'hui et de ne pas en tirer des conclusions, ce qui me semble absolument désastreux. Alors, on voit que l'appel à plus de mixité et les propos du président sous un vocable totalement différent, mais me semble être de même nature. On pense qu'en dispersant les problèmes, on va résoudre les problèmes. Alors, c'est l'approche donc magique où on pense que en mixant les populations, et c'est ce qui était au cœur de la loi Guessot, c'est-à-dire d'imposer un quota de logements HLM dans toutes les communes, ça veut dire qu'on impose un type de population pensant que les riches devaient accepter les pauvres, à la fois dans la commune, et on est allé encore plus loin, dans une opération immobilière, il fallait qu'il y ait une partie pour les pauvres et une partie pour les riches dans le même logement. C'est-à-dire que on imposait aux gens les lieux avec qui, enfin les lieux d'habitation pour certains, et à d'autres on leur imposait les personnes avec qui ils allaient vivre, ce qui personnellement me paraît assez anticonstitutionnel sur la base de la liberté de chacun d'aller et venir et d'habiter où bon lui semble, mais c'est tellement paré d'éléments vertueux et de résultats probants que l'on avait à voir d'une paix sociale et de vivre ensemble, donc on pourrait quand même s'interroger, se poser la question sur la faillite de cela. Alors évidemment, si on peut aussi renforcer le processus, c'est-à-dire faire l'histoire du talc morange, c'est-à-dire que plus les bébés avaient les fesses rouges, plus on leur mettait le talc, mais c'était le talc qui créait les fesses rouges et qui les intoxiquait jusqu'à leur mort. Donc on peut aussi continuer au lieu de se poser la question. Alors il y a une question d'abord fondamentale qui n'est pas posée. Pourquoi on n'aiderait pas les personnes plutôt que de créer des logements sociaux? Ah bon, ça c'est quelque chose qui, en France, est une question impensable. Alors évidemment, ça vient de l'architecte qui dit ça, on me dit, vous allez tuer la profession. Mais non, il s'agirait que si on donne aux gens dans l'anonymat le plus complet, les aides sociales n'ont pas à être publiées, la possibilité de choisir avec une aide les logements, donc ils auraient le choix avec cette aide de prendre des logements meilleur marché ou des logements plus chers, et on aurait des mesures compensatoires, et on pourrait dire anonymes. Et on n'aurait pas, dans ce cas-là, justement, cette segmentation qui est très complexe dans certaines communes, parce qu'il y a aussi les lois aujourd'hui de non-artificialisation du sol qui ralentissent la mise à disposition de foncier. Alors il y a des maires qui n'ont pas de foncier, qui paient des amendes invraisemblables, parce qu'en plus de cela, les maires qui n'adhèrent pas à ces quotas, qui ne les construisent pas, sont pénalisés. Et quand je dis les maires, évidemment, c'est les populations. Les maires, c'est pas, ils ne paient pas vers leur poche. Donc, on pénalise les populations parce qu'il n'y aurait pas suffisamment d'HLM et on ne peut pas les construire. Mais le problème de la construction aussi serait donc cette répartir les difficultés dont parle le président de la République, et qui en fait serait de créer une dispersion des quartiers sensibles, pour employer le vocabulaire. En gros, on le sait, il s'agit surtout, c'est les quartiers dans lesquels il y a eu l'immigration, mais comme je vous avais déjà expliqué, ce n'était pas, contrairement à ce que beaucoup de gens pensent, ce n'était pas des architectures et des quartiers construits pour un type de population, c'était simplement à leur origine dans l'après-guerre, c'était pour toutes les populations, sans attribution forcée de logements sociaux. C'était, on peut dire justement, cette mixité. Mais ce qui est d'autant plus surprenant aujourd'hui, c'est que contrairement à ce qui était avant, où il y avait les classes sociales qui étaient identifiées par rapport au logement qu'elles avaient, on avait d'une manière bien claire, ne parlons pas des châteaux, mais on avait les hôtels particuliers, les logements même haussmanniens, avec des façades en pierre visibles par leur décoration, avec des hauteurs sur plafond, une décoration intérieure et des surfaces qui étaient très importantes. Alors aujourd'hui, le paradoxe de notre époque, c'est qu'en fait, les logements HLM sont le même type que les logements non HLM. Donc on a à peu près la même réglementation qui est, on peut dire, pour des raisons de constructibilité, des raisons de réglementation thermique et autres, on a des logements à peu près semblables. Donc on a des logements dits à loyer modéré, mais qui sont les mêmes que les logements du marché libre, on peut dire, pour les classes moyennes, pour les classes moyennes supérieures et pour les riches, dans lesquels on n'a pas très grande différence si on fait la part des ultra-riches, mais qui représentent 0,1% de la population, qui ne sont évidemment pas concernés par le débat que je vous tiens aujourd'hui. Donc, tout ça me paraît quand même d'être d'une grande hypocrisie d'une part, et d'une efficacité absolue et totale, si ce n'est que l'argent public et mise en œuvre pour des politiques qui en fait ne fonctionnent pas du tout et au contraire marchent de moins en moins. Donc une réflexion pourrait être donnée justement sur des politiques sur les populations. Alors expliquons-nous. Par exemple, aujourd'hui, après les émeutes, on a dit « Ah, mais ce ne sont pas des immigrés, puisqu'en fait, ce sont des Français, donc il fallait évidemment pas remettre la question de l'immigration au centre du jeu. » Et le ministre Darmanin a dit donc qu'il y avait beaucoup de Mathéo et de Kevin, ça veut dire donc et des populations françaises. Donc et on a dit donc c'était des Français depuis trois générations. Alors, on ne se pose pas non plus le problème, donc quand on parle de la mixité sociale, si les mixités sociales jouent dans l'autre sens. Et dans le cas présent, on sait qu'on ne peut pas nier qu'il y ait une immigration, et notamment une immigration actuelle subsaharienne. Bah, il faut être aveugle pour ne pas avoir vu dans les émeutes les personnes qui n'étaient pas des enfants, contrairement à ce qu'on a pu dire. Alors que si des personnes, les personnes qui ont été, on peut dire, capturées, si vous me permettez le terme, par les policiers, étaient les plus jeunes, c'est peut-être ceux qui couraient le moins vite. Et je ne pense pas qu'on puisse faire, à partir de ceux qui ont été attrapés et de leur âge de 17 ans, on peut dire une statistique très fiable. Parce que, bon, je crois que tout le monde a vu, il y avait quand même des grands gaillards qui défonçaient et qui brûlaient, qui ne me paraissaient quand même pas d'être des enfants. Alors, évidemment, on a pu dire, ah, ce sont les enfants parce que les parents ne s'occupent pas de les laisser sortir le soir. Oui, c'est certain. Mais le problème dont je vous parlais de l'efficacité de la mixité sociale, ben, ça a pu, si ça peut marcher dans un sens, ça peut marcher aussi dans l'autre. Soyons clairs, c'est-à-dire qu'il y a des nouveaux entrants d'immigration récente qui sont évidemment des gens en difficulté, sans revenus, qui sont prêts à tout et puis qui viennent de pays difficiles. Par exemple, le Nigeria, c'est des pays dans lesquels il y a une extrême violence et il est évident que ils trouvent une vie différente ici, mais aussi un Eldorado, et que ça peut être aussi des tentations de piller et de voler, et que la contamination peut être faite par la facilité, puis par les trafics de drogue et autres, où il y a de l'argent qui circule, et ça peut être effectivement des causes sans parler de générations sacrifiées. Donc là, je me refuse aussi à ce fatalisme de penser qu'il y a la troisième génération des immigrants, notamment du Maghreb, qui est une génération sacrifiée de délinquants. Je pense que le phénomène est beaucoup complexe et que il faudrait peut-être aussi penser que cette immigration récente puisse être, ou du moins, si ce n'est supprimé, en tout cas filtrée, et les délinquants renvoyés dans leur pays. On sait que les délinquants, les peines ne sont pas appliquées, que ce qu'on appelle les OQTF ne sont pas faites. Alors là, c'est un problème évidemment qui nous échappe et qui est un problème de justice et d'efficacité de cela. En tout cas, je pense que la solution qui serait de distribuer ces populations à travers les logements dans les campagnes, dans les villes moyennes ou dans les petites villes, non seulement serait inefficace sur les résultats, mais risque d'être au contraire contre-productive dans la mesure où on ne sait pas, on a voulu forcément mixer les problèmes qui étaient les problèmes de personnes, des problèmes d'emploi, des problèmes sociaux que l'on arrive pas à dissocier des problèmes de l'architecture, des problèmes des logements, et que on a cette espèce de package qui était la loi SRU avec les politiques de la ville, et qu'il faudrait clairement dissocier cela. Voilà, donc je n'ai pas de solution miracle, mais je pense que si on posait les problèmes clairement, au lieu de changer de mots et de remplacer les émeutes par les difficultés, on avancerait dans ce pays. Je vous souhaite une bonne semaine.